Ici Téhéran, voix de la République islamique d'Iran.
Au nom de Dieu clément et miséricordieux. Chers auditeurs, vous allez entendre le verset 186 de la sainte sourate Al-Baqara. Notre frère Janati vous en donne la lecture chantée, vous en aurez ensuite la traduction. Ce verset porte sur l'appel de Dieu.
بسم الله الرحمن الرحيم وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة صدق الله العلي العظيم.
Et quand mes esclaves t'interrogeront sur moi, alors que je suis tout proche, je réponds à l'appel de qui fait appel quand il m'appelle. Qu'ils cherchent donc à répondre à mon appel et qu'ils croient en moi, peut-être seraient-ils bien dirigés.
Chers auditeurs, bienvenue sur les ondes de la radio francophone iranienne. Vous pouvez nous capter tous les soirs de 18h20 à 19h20, temps universel, sur ondes courtes, dans la bande des 49 mètres, sur la fréquence de 6135 kHz, en Europe et en Afrique du Nord. À Téhéran, nos auditeurs peuvent nous entendre à la même heure sur FM, dans la fréquence de 99,5 MHz. Vous pouvez également nous capter sur les satellites Hotbird et Eutelsat 3.
Grâce au nom de Dieu, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. À mes auditeurs, bonsoir. Merci d'être avec nous en ce lundi 17 janvier 2022. J'ai le grand plaisir de vous présenter dans quelques instants le journal d'information, suivi d'un commentaire politique. Nous vous proposerons ensuite la seconde partie de cette émission. Merci de votre écoute. Restez avec nous. L'essai réussi du moteur spatial à combustible solide de l'Iran, l'occupation israélienne arrête 100 Palestiniens dans le Negev et en Somalie, le porte-parole du gouvernement visé par un attentat suicide. C'étaient les principaux titres. En voici le journal. En avril 2021, le corps des gardiens de la révolution islamique, le CGRI, a envoyé dans l'espace le satellite Nour, lumière en persan, à partir du lanceur à trois étages RAS-7, le messager. Ce lancement a marqué un tournant important dans l'industrie spatiale iranienne. Le porte-satellite RAS-7 utilise, dans la première étape, du combustible liquide. Il consomme du combustible solide dans les étapes suivantes. L'armée de l'air des gardiens de la révolution islamique a testé un nouveau système de propulsion à combustible solide baptisé RAFE. Ainsi, l'Iran a rejoint le cercle des producteurs de satellites entièrement à combustible solide. Le moteur spatial à combustible solide RAFE utilise des matériaux composites légers comme enveloppe ainsi qu'un système de vecteurs de poussée. L'Iran a testé avec succès sa première fusée porte-satellite indigène avec un moteur fonctionnant au combustible solide, a fait savoir le 13 janvier le commandant de la force aérospatiale du CGRI, le général de brigade Amir Ali Hajizadeh. RAFE possède un fuselage en composite non métallique, ce qui augmente l'énergie et entraîne des économies considérables sur les coûts. Désormais, l'Iran sera en mesure de lancer un grand nombre de satellites utilisant des moteurs à faible coût, a-t-il indiqué. Au cours des deux dernières années, tous les porte-satellites iraniens qui ont été testés ont fonctionné au carburant liquide. Mais dans ce test, nous avons réussi à utiliser un moteur à combustible solide. Les fusées à combustible solide peuvent être utilisées pour les lanceurs mobiles, tandis que les fusées à combustible solide pur sont principalement liées au système de missiles balistiques. Auparavant, le site de lancement fixe du pays à Semnan était constamment surveillé par des satellites espions étrangers, engendrant une guerre psychologique contre le programme spatial du pays. Dans la nouvelle génération de porte-satellites du CGRI, les composites sont en général plus coûteux à produire que leurs équivalents métalliques. Les composites rendent également une fusée plus légère afin qu'elle puisse propulser un satellite une charge utile plus lourde en orbite. Les porte-satellites utilisent généralement du carburant liquide, mais les fusées à carburant solide peuvent être adaptées pour les lanceurs mobiles qui peuvent être conduits n'importe où sur un réseau routier ou ferroviaire majeur. Les fusées à combustible solide pur sont principalement associées au système de missiles balistiques. La coalition saoudienne a reconnu les nouveaux succès sur le terrain des forces Sana'a, malgré l'intensification des frappes aériennes de la coalition d'agression saoudienne sur le front de Ma'rib. Malgré l'intensification des frappes aériennes de la coalition saoudienne contre la province yéménite de Ma'rib, la coalition a reconnu dimanche 16 janvier que l'armée yéménite et les comités populaires Ansarallah du Yémen ont fait de nouvelles progressions sur le front de Ma'rib. La chaîne saoudienne Al-Adas a rapporté que des affrontements se poursuivaient actuellement autour du district Al-Falaj, qui est déjà sous le contrôle des forces Sana'a. Al-Falaj est situé à l'entrée sud de Ma'rib, dans la ville Wadi Obaïda, surplombant des montagnes d'Al-Balaq. Des sources tribales ont rapporté que les forces Sana'a avaient repoussé l'avancée du chef de Daesh dans la région Khaled Islam, dans une tentative de reprendre des positions dans la région de Ra'an al-Bour, le temps que des dizaines de terroristes Daesh avaient été tués ou blessés et que les autres avaient pris la fuite. La coalition saoudienne a intensifié ses attaques en menant 60 de frappes aériennes au cours des dernières 24 heures sur le front de Ma'rib, illustrant ainsi les échecs de la coalition saoudienne dans son dernier bastion au Yémen. Les affrontements dans la province de Ma'rib pourraient déterminer l'issue de la guerre au Yémen. Les avancements continus de la résistance yéménite interviennent alors que la coalition saoudienne se réjouit des frappes aériennes pour ralentir l'avancée des forces de Sana'a. Des personnalités nationales au Golan syrien occupé ont réaffirmé l'attachement de la population du Golan à la patrie et à l'identité arabe syrienne, ainsi qu'à l'opposition au projet de judaïsation de l'occupation israélienne, notamment celui des turbines éoliennes que l'occupation envisage d'établir sur les terres agricoles du Golan. Dans ce contexte, ils ont souligné lors d'une réunion tenue dimanche pour discuter des moyens de faire face à ce plan d'occupation que les Golanais ne renonceront à aucun pouce de leur sol. Le doyen des détenus syriens libérés, Sidri al-Marat, a fait savoir que l'heure de vérité est arrivée pour combattre l'occupant, faisant savoir que cette bataille est dure et longue. Notons que le projet des turbines éoliennes que les forces d'occupation israéliennes entendent faire passer depuis leur occupation du Golan syrien sous prétexte de générer l'électricité à partir de l'énergie éolienne sur une immense partie des terres du Golan fait partie des projets de l'occupation israélienne visant à déplacer la population du Golan. L'occupation israélienne arrête 100 Palestiniens dans le Negev et referme la route Jenin-Naplouse. Des sources israéliennes ont rapporté ce dimanche que le nombre des détenus palestiniens à la suite des manifestations dans la région occupée du Negev, condamnant la destruction de leurs terres, est de 100 détenus, comprenant des enfants. Il est à noter que samedi, un certain nombre de jeunes palestiniens ont été blessés et d'autres ont été arrêtés lors de raids lancés par les forces d'occupation dans le Negev. Les jeunes du Negev continuent de faire face aux attaques des forces d'occupation israéliennes, en particulier dans les villages de Tel Sheba et Shekip al-Salam, et la police israélienne a dispersé des manifestants palestiniens à Tel Sheba qui ont lancé des feux d'artifice et des bouteilles sur les forces d'occupation. La résistance contre-attaque et l'occupation lance une campagne d'arrestation. La nuit dernière, des combattants de la résistance palestinienne ont affronté les attaques des forces d'occupation à Jabal Sabi, dans la ville de Beïta, au sud de Naplouse, en Cisjordanie. Les forces d'occupation ont également lancé une campagne de raids dans un certain nombre de régions en Cisjordanie, dont Bethléem, où elles ont arrêté 5 Palestiniens, dont des détenus libérés. Et les forces d'occupation israéliennes ont fermé ce dimanche la porte fer située à l'entrée de la ville de Naroura, près de la colonie Sheb Shomeron, au nord-ouest de Naplouse, a affirmé le maire de Sébastia, Mohamed Azem, ajoutant que les forces d'occupation ont déployé leurs soldats à proximité de la porte, sachant que la ligne de circulation à travers la ville de Sébastia a été déviée vers la ville de Naplouse. Il convient de noter que les forces d'occupation ont imposé un siège aux citoyens des villes et villages au nord-ouest de Naplouse depuis la mi-décembre et ont entravé leur mouvement après le meurtre d'un colon près du site de la colonie évacuée Omash sur la route entre Jenin et Naplouse. Une source de la police somalienne a annoncé dimanche 16 janvier que le porte-parole du gouvernement somalien, Mohamed Ibrahim Mwalimu, avait été visé par un attentat suicide dans la capitale Mogadiscio. Le porte-parole du gouvernement somalien a été blessé dimanche dans une attaque suicide de Shebab contre sa voiture à Mogadiscio, ont affirmé les services du Premier ministre et la police de ce pays, où les élections, maintes fois retardées, devaient reprendre ce week-end. Selon une source policière et des témoins, l'assaillant a tenté de s'accrocher à la voiture du porte-parole avant de faire exploser sa bombe, détruisant partiellement le véhicule. Deux autres personnes ont été blessées par l'explosion, a-t-il ajouté. Des témoins ont confirmé que l'assaillant qui est décédé s'était appuyé sur la voiture avant qu'une forte explosion ne retentisse. L'attaque a été revendiquée par les Shebab, un mouvement armé fondé début 2004, idéologiquement affilié à Al-Qaïda. Le mouvement a revendiqué de nombreuses opérations terroristes qui ont fait des centaines de morts. L'attaque de dimanche a eu lieu alors que la Somalie doit reprendre son processus électoral enlisé depuis un an sur fond de tension entre le président Mohamed Abdoulaye Mohamed, plus connu sous le surnom de Farmajo, et le premier ministre Mohamed Hussein Roble. Dans un geste d'apaisement, le chef de l'État avait chargé le premier ministre d'organiser les élections. Mais dans les mois qui ont suivi, les accrochages entre les deux hommes se sont intensifiés, faisant craindre que leurs différends ne dégénèrent en violence généralisée. Voilà, si ça achève le journal, restez à l'écoute du commentaire politique. Négociations à Vienne. L'Iran a désarmé les États-Unis. Le journal américain Boston Globe s'est penché dans un rapport sur les derniers développements de négociations nucléaires à Vienne et a spécifiquement conseillé à l'administration Biden de s'abstenir de répéter les mêmes erreurs historiques de l'administration Trump, dont la poursuite de la politique échouée de campagne de pression maximale contre l'Iran. Selon ce journal, les États-Unis et les Européens ont salué ce qu'ils ont appelé des progrès constants, bien que lents, du huitième tour des pourparlers nucléaires de Vienne, visant à relancer le plan d'action globale conjoint. Le journal a rapporté que la notion du temps n'était pas du côté de l'administration Biden et qu'elle doit trouver, le plus tôt possible, un moyen de sortir de l'impasse dont elle avait hérité de l'administration précédente. La question de la levée des sanctions, des garanties empêchant un éventuel nouveau retrait de Washington de l'accord nucléaire, de la vérification de la levée des sanctions et des engagements que Téhéran doit tenir en contrepartie, constitue le point central des négociations en cours à Vienne. Déjà un diplomate américain anonyme affirmait à Politico ce mardi que ce sont les États-Unis qui devraient faire le premier pas en vue de la levée des sanctions sur l'Iran. Les conseils du journal aux États-Unis de Biden interviennent à un moment où non seulement les États-Unis n'ont atteint aucun de leurs objectifs en exerçant tous les leviers de pression sur l'Iran, mais encore les programmes nucléaires pacifiques de l'Iran ont connu un progrès significatif. Plus les pourparlers nucléaires avec l'Iran à Vienne prennent du temps, moins le retour au plan global d'action conjoint est possible, d'autant plus que les progrès nucléaires pacifiques de l'Iran ont rendu solide plus que jamais la position de ce pays dans les pourparlers à Vienne, a écrit le journal. Sans évoquer le caractère pacifique du programme nucléaire iranien, le journal prétend que si le temps d'évasion de l'Iran se réduit en quelques semaines, le plan d'action global conjoint ne vaudra plus la peine d'être relancé. Bien que cette déclaration ait été faite sans fondement, cela pourrait être un avertissement aux Américains de ne pas répéter les erreurs du passé, car même si les sanctions sont maintenues, ce sont les Américains qui subiront la défaite, d'autant plus qu'ils n'auront plus de levier de pression. Les responsables américains négociant indirectement avec l'Iran doivent faire tout leur possible pour tenter de relancer l'accord dès que possible, notamment en reconnaissant que les États-Unis sont responsables d'avoir gravement blessé le plan d'action global conjoint lorsque Donald Trump s'en est retiré, ajoute le journal. Si les États-Unis poursuivent la même politique de Trump sur le programme nucléaire iranien, de mauvaises conséquences attendent Washington ainsi que ses alliés régionaux et internationaux, avertit le journal. Dans la situation actuelle, les différentes parties des pourparlers nucléaires de Vienne sont dans une situation très différente de celle de 2015, lorsque le plan d'action global conjoint a été conclu. Ce qui a changé cette fois, c'est que le programme nucléaire iranien est plus avancé que jamais, a déclaré Eric Brewer, directeur adjoint et chercheur principal du projet sur les questions nucléaires au Centre d'études stratégiques et internationales. L'Iran a non seulement renforcé ses capacités, mais aussi son savoir-faire nucléaire, ce qui est impossible pour les Américains de le détacher de l'Iran, a-t-il poursuivi. Dans la situation actuelle, parvenir à un accord avec l'Iran est bien mieux que de sortir des négociations nucléaires avec les mains vides. Cela est entièrement dans l'intérêt national des États-Unis. Washington doit être réaliste et éviter fortement de répéter ses erreurs historiques contre Téhéran, conclut le journal.
Mesdames et Messieurs, bonjour et merci de nous rejoindre pour une nouvelle édition du débat en ce samedi 15 janvier 2022. À la tête d'une délégation politique de haut rang, le ministre iranien des Affaires étrangères, Hossein Amir Abdollahian, est arrivé en Chine à l'invitation officielle de son homologue chinois. Le chef de la diplomatie iranienne a souligné que des questions stratégiques étaient au menu des discussions avec les responsables chinois. Il a réaffirmé que l'approfondissement des relations avec les pays voisins et alliés constituait en effet le pilier de la politique étrangère de la République islamique d'Iran. Lors d'une rencontre avec son homologue chinois, Hossein Amir Abdollahian a souligné la détermination de la République islamique d'Iran à approfondir les liens avec Pékin dans le cadre du partenariat, de l'accord de partenariat stratégique de 25 ans signé en mars 2021 entre les deux pays. Aujourd'hui, dans le cadre de cette édition du débat, nous allons nous pencher sur l'importance de cette visite du chef de la diplomatie iranienne en Chine, l'importance de ce regard vers l'Est de la République islamique d'Iran à l'approche de la visite du président iranien en Russie et les répercussions, en effet, de cette visite sur les développements en Asie centrale et sur l'Union eurasienne. Veuillez rester avec nous jusqu'à la fin de cette émission.
À la tête d'une haute délégation politique, le ministre iranien des Affaires étrangères a débarqué vendredi à l'aube à Pékin. Hossein Amir Abdollahian et la délégation qui l'accompagne se sont entretenus avec les dirigeants chinois des relations politiques bilatérales et de la mise en application des accords économiques déjà conclus entre les deux pays. En visite à Pékin, à l'invitation officielle de son homologue chinois, le chef de la diplomatie iranienne a rencontré ce dernier pour discuter du dernier statut du plan de coopération sino-iranien prévu pour 25 années. Dans ce droit fil, le magazine américain Foreign Policy rapporte que l'essor des relations entre l'Iran et la Chine constitue une menace sérieuse pour les intérêts des États-Unis, d'Israël et des pays arabes du Golfe Persique. Le ministre iranien des Affaires étrangères Hossein Amir Abdollahian se rend en Chine vendredi pour approfondir le partenariat stratégique global que les deux pays ont signé l'année dernière. La coopération croissante en matière de sécurité sino-iranienne représente une menace sérieuse pour les principaux intérêts sécuritaires des États-Unis, d'Israël et des pays arabes du Golfe Persique, écrit le magazine. Foreign Policy continue que le partenariat stratégique de 25 années que Pékin et Téhéran signé en mars 2021 offre des avantages majeurs pour ces deux adversaires de Washington unis dans leur opposition aux États-Unis. Selon le magazine américain, en établissant des relations avec l'Iran, la Chine renforce sa présence au Moyen-Orient et sape les États-Unis. Et l'Iran, pour sa part, obtiendra des milliards de dollars d'investissements chinois dans l'énergie et les infrastructures, ce qui minera l'efficacité des sanctions américaines. Il s'agit du premier déplacement d'Amir Abdollahian en Chine après sa désignation en tant que ministre des Affaires étrangères. Le partenariat stratégique global sino-iranien est en effet une feuille de route qui trace les futures coopérations entre les deux pays. Le document a été élaboré dans l'esprit d'une recherche pour la région et le monde entier de la paix, de la stabilité et du développement. Il n'a nullement pour destinée une quelconque ingérence dans les affaires internes des autres pays.
Retour au plateau de l'émission du débat. Merci de votre fidélité. Je vais tout de suite vous présenter nos invités pour cette émission. Nous sommes en ligne depuis Toulouse avec M. le professeur Pierre Dortiguet, philosophe et politologue. Et depuis Bruxelles, avec Xavier Dupré, économiste et analyste politique. Monsieur Dupré, bonjour et merci infiniment d'avoir accepté notre invitation.
Bonjour, c'est moi qui vous remercie.
Alors, je serai bref pour la première question. Quelle est l'importance de cette visite du chef de la diplomatie iranien, sa première visite en effet en Chine, dans le contexte actuelle des évolutions géopolitiques de la région, à la fois dans la région de l'Asie occidentale, mais aussi de l'Asie du Sud-Est?
Alors, quand il faut vraiment au début se rendre compte de l'importance tout à fait stratégique de ces accords et de cette visite, puisqu'en fait cette visite concrétise et lance l'application de ces accords, elle montre clairement il existe une alternative à l'omniprésence américaine en Asie occidentale. Et donc il y a effectivement d'un côté une grande puissance régionale, l'Iran, qui s'allie avec la Chine, qui est en train de devenir au cours des prochaines années la première puissance mondiale. Ça, c'est vraiment un tournant pour l'Asie de l'Ouest. Et là, on voit clairement que la capacité d'injonction stratégique même des États-Unis est très très active dans la région. Elle l'était déjà depuis un certain nombre d'années. En témoigne notamment l'échec en Afghanistan, le fait que l'Algérie a réussi à rétablir une situation d'ordre public. Grâce à l'OTAN et à la Russie, mais ici, véritablement, on joue sur quelque chose d'un autre niveau. Il y a un acte qui est l'acte qui n'est pas celui de la prise de contrôle, en tout cas de l'affirmation d'une intervention américaine dans la région au cours des 20 prochaines années. Évidemment, du côté de la Chine, il y a un autre bénéfice. Au moment où les États-Unis se montrent, il suffit simplement de garder en mémoire la création de l'OCUS comme force militaire intégrée destinée à contrer la Chine, et aujourd'hui, la Chine qui des revendications de souveraineté sur le peuple de Chine méridionale, eh bien, il se trouve tout simplement qu'elle est capable, la Chine, Pékin est aujourd'hui capable de dire aux États-Unis, vous venez sur notre terrain, nous sommes capables, nous, de nous déplacer et de nous opposer à vous sur un autre terrain où vous vous croyez jusqu'à présent, et de manière assez illusoire, complètement hégémonique. C'est véritablement, comme souvent dans l'histoire de l'Iran, joue un rôle important. puisqu'en fait, cet accord marque clairement un basculement géopolitique qui va mettre de plus en plus les États-Unis en position d'égalité stratégique avec la Chine, ou bien même Washington ne le désire pas. Mais l'histoire du genre humain ne se limite évidemment pas au seul desiderata de Washington.
Merci infiniment pour ces précisions. Restez avec nous, M. Dupré. On va tout de suite rejoindre à Toulouse M. le professeur Pierre Dortiguier, philosophe et politologue. M. le professeur, bonjour. Merci infiniment d'être en ligne avec nous. Au cours de l'année dernière, M. le professeur, d'importants événements alors ont eu lieu. La signature de cet accord, de ce partenariat stratégique de 25 ans entre Pékin et Téhéran, l'adhésion de l'Iran à l'Organisation de coopération de Shanghai comme membre à part entière, le retrait américain d'Afghanistan, sans oublier bien entendu le fait que, alors depuis son entrée en fonction, le président Raisi a promis en effet un regard vers l'Est et dans ce cadre, il va effectuer prochainement une visite en Russie. Et avant cette visite, alors, ce déplacement du chef de la diplomatie iranienne en Chine. Alors, dans quelle mesure, en effet, ces événements pourraient contribuer à une nouvelle phase d'unité dans la région d'Asie occidentale et au sein de l'organisation eurasienne?
Le choix même de cette visite en Chine, qui est un choix politique, politique, stratégique, avant le voyage en Russie, nous semble avoir une grande signification. Car il ne s'agit pas, c'est de dire, disons, bien sûr, avec la Russie, des rapports amicaux. Mais il est certain que être pris entre deux puissances, comme puissance hostile ou bien comme les États-Unis et la Russie, n'est pas seulement, je dirais, sans danger, sans inconvénient. Et il est donc excellent de mettre dans la balance, si je puis dire, la Chine, qui elle-même, disons, est en rapport avec la Russie, mais disons, a des intérêts particuliers. Ne s'y confond pas. Il y a même des années 60, j'étais en prison au matin, les étudiants de la Sorbonne me rappellent qu'il y avait, disons, un conflit ouvert entre la Russie et la Chine pour des questions diverses, mais donc cette phase a été dépassée à l'intérieur de ce camp qui était temps communiste, et aujourd'hui, la présence chinoise me semble, et cet accord de 5 ans, nous semble être une garantie d'indépendance pour l'Iran même. C'est une garantie de stabilité. Il est certain, bien sûr, que l'Iran a que le conseil économique de Shanghai, comme l'organisation de Shanghai, comme l'a rappelé M. Dupré. Mais nous estimons que la Chine a ses intérêts propres. C'est-à-dire qu'elle pèse, disons, comme dans ce temps. Et je dirais même que elle semble près de l'Iran pour une raison, disons, proprement économique et stratégique, en particulier dans leur rapport, dans la fourniture de matières premières, etc. Et donc, de la part de la Chine, disons, qui a exploité les ressources naturelles de l'Iran, et disons, en outil même. Je crois que la Chine peut jouer, comme elle a joué autrefois dans l'histoire, un rôle, justement, dans un problème. Vous savez, aujourd'hui, très équilibré, nous sommes toujours dans une philosophie, heureusement, de rapport de force. Et il était évident que, en particulier face aux agressions de certains milieux internationaux comme Israël, par exemple, la Chine qui a des rapports avec Israël, bien sûr, pour économique, mais financier, peut jouer aussi un rôle, disons, de contrepoids. Ceci n'est pas sans importance, Iran. Car ce qui a marqué votre pays, c'est ce blocus instable. Je dirais même que l'hostilité contre l'Iran est très profonde dans certains milieux américains. Je n'en sais pas pourquoi, je suis un auditeur que le discours d'adieu, M. Trump, aux affaires, il a déclaré que le général certaines parties, par exemple, dont nous avons parlé récemment, étaient à bouche tatinette, vous voyez. Il n'a pas dit ça au moment de l'attentat. Il a dit ça, justement, quelques temps après, disons, lors de son départ. Donc, nous avons affaire véritablement à des gens qui sont aveugles, à des gens qui sont excités, peut-être par ces milieux dont j'ai pu parler, à des gens des États-Unis. Et il est très bon que, justement, l'Iran diversifie. Ils ont ses alliés et ses deux alliés, que sont maintenant la Russie et la Chine, tous des alliés, mais dont chacun leur rapport de force. Et je trouve que, j'insiste ici, sur ce fait qu'il y a également des intérêts, des rivalités ou des concurrences entre la Russie et la Chine, ce qui n'est pas suffisamment de valeur, et surtout étendu pour une longue distance de temps, comme les 25 ou 30 ans. C'est une rivalité normale, comme cela arrive, entre 13 États. Cela n'implique pas de pays, vous voyez. Mais je crois que le fait que l'Iran sache choisir, disons, soit sache reconnaître ses partenaires, voyez-vous, sur un long espace de temps, donc stabilise la politique de l'Iran, je dis à l'extérieur, permettez-moi de le dire, à l'intérieur même de votre pays. Je crois que cela peut donner une confiance en soi à votre peuple, à ce grand peuple que fait l'Iran, et également modifier par les relations ou améliorer les relations avec comme la Turquie et autres. Car si la Chine intervient dans ce partenariat à long terme, comme de 25 ans, alors à ce moment-là, l'Iran ne sera pas considéré de la même manière, soi-disant respecté avec des critères de force qui sont heureusement les critères de la vie actuelle.
Merci infiniment, monsieur le professeur, pour ces précisions. Restez avec nous. Monsieur Dupré, alors. Ces trois pays, à savoir l'Iran, la Russie et la Chine, ont un point commun, en commun bien sûr, le fait qu'ils sont tous les trois victimes des sanctions américaines et des sanctions qui ont toujours été utilisées comme un instrument de la politique étrangère des États-Unis. Dans quelle mesure l'approfondissement des liens entre cette alliance, les membres de cette alliance tripartite pourrait d'une part en effet à contribuer à relever le défi de l'unilatéralisme américain sur la scène internationale et d'autre part contrer les sanctions illégales des États-Unis.
En ce qui concerne le fait de contrer l'unilatéralisme des États-Unis, il va de soi que de grandes puissances, de grands pays avec de grands potentiels comme bien sûr la Russie, la Chine et l'Iran, eh bien, le fait que ces trois pays se coordonnent davantage puissent bénéficier, créer un effet de contrepoids sur toute une série de théâtres stratégiques où les États-Unis sont très impliqués, eh bien, évidemment, cela contribue à l'émergence d'un monde multipolaire dans lequel le principe de respect des souverainetés nationales sera évidemment davantage mis au centre de l'agenda politique qu'il l'est aujourd'hui. C'est un premier élément, je pense, qui est vraiment important. Alors, sur la portée même des sanctions des États-Unis, on observe dans le temps, vous avez raison d'insister sur le fait que la politique de sanctions à caractère économique constitue une manière dans laquelle, par laquelle les États-Unis entendent clairement limiter la souveraineté des pays qui auraient tendance à vouloir résister. Et on observe d'autant que l'efficacité de ces mesures de sanctions, eh bien, elle diminue. Lorsque dans les années 60, le président Kennedy traite un blocus sur Cuba, les effets seront drastiques sur l'économie cubaine. Et on s'aperçoit qu'avec le confinement, cette politique de sanctions est de moins en moins importante, puisque le développement industriel et technologique diffuse davantage dans le monde. Et on peut penser que dans quelques années, suite à la montée en gamme en termes de valeur ajoutée et de contenu technologique des filières industrielles chinoises, eh bien, en fait, les sanctions des États-Unis seront complètement inopérantes, surtout à peu près inopérantes, puisque toute une série de biens industriels qui sont aujourd'hui capitales, notamment, qui sont aujourd'hui produits par des pays occidentaux, plus ou moins contrôlés malgré tout par les États-Unis, seront produits en Chine. Et donc, les États-Unis ne pourront plus opposer leur veto à l'exportation de ce type de biens qui est nécessaire au développement économique et technologique. Ce qui a suscité également des mouvements de paiement de plus en plus centrés, de plus en plus isolés en yuan, qui est la monnaie de la Chine, ce qui veut dire que les banques chinoises, les grandes financières chinoises, ont de plus en plus la main sur les canaux de paiement, ce qui évidemment va rendre de moins en moins opérant, de moins en moins efficace, les mesures de sanctions des États-Unis sur les canaux de paiement qui eux les met en dollars. Il y aura moins de nécessité d'opérer à partir de ces canaux de paiement et d'opérer des sanctions financières en dollars. Le yuan prendra une importance de plus en plus croissante avec le temps. Et on l'observe d'ailleurs dans la composition des réserves de change aujourd'hui de la nation de Russie. Il y a de moins en moins de dollars dans, suite aux sanctions évidemment, dans les réserves de la banque de la Fédération de Russie. Et le yuan est en train de plus en plus de supplanter progressivement les devises occidentales. La Russie mise en plus sur le développement industriel de la Chine. Au total, pour un pays comme l'Iran, des accords de coopération qui portent 400 milliards de dollars et une génération, il y a 25 ans malgré tout, eh bien, c'est la garantie de sortir en réalité l'étau et de l'étouffoir pour représenter. Depuis 1979, depuis la création de la République islamique d'Iran, et bien c'est la garantie de sortir de cette histoire qui a été mise en place par les États-Unis, comme chaque fois qu'un gouvernement s'est opposé à eux en s'appuyant sur ce qui est son bon droit, en réalité sa souveraineté nationale. Donc nous sommes ici véritablement présents, comme je le disais tout à l'heure, d'un bâtiment géostratégique important. Puisque on voit clairement aujourd'hui que trois pays qui ont décidé de jouer la carte de leur souveraineté face à l'unilatéralisme américain, eh bien ils se renforcent les uns les autres dans cette quête d'affirmation de leur indépendance. Et ça c'est tout à fait capital parce que ça signifie qu'on pourra dans les livres d'histoire dans une trentaine d'années, je ne serai peut-être plus là pour le voir. Mais en tout cas, on dira que les accords stratégiques, les accords de coopération très profonds qui ont été conclus entre Téhéran et Pékin préfiguraient quelque part le basculement vers un monde multipolaire.
Merci.
Et là, véritablement, on peut déjà dire que c'est l'histoire telle qu'elle est.
Merci, monsieur Dupré.
Du mur de Berlin qui a changé, en fait. Voilà, excusez-moi.
Je vous en prie, merci infiniment. Une toute dernière question à M. le professeur Dortiguière. M. le professeur, l'émergence de ce monde multipolaire à la lumière de la coopération étroite entre l'Iran, la Russie et la Chine, dans quelle mesure Alors, l'apparition de ce monde multipolaire pourrait d'une part contribuer, en effet, à changer la donne au sein des instances internationales et d'autre part à favoriser en effet, les échanges économiques entre non seulement ces trois pays, mais aussi avec les autres pays du monde.
Un effet, cela, pour dire en presse, permet à tout part l'Europe de reprendre, disons, son essor, c'est-à-dire d'assumer le rôle de la jouer vis-à-vis de l'Iran, par exemple, et vis-à-vis de l'Asie d'autres pays. Nous aurions, disons, comme Européens, et M. Dupré ne me contredira pas certainement, que l'Europe doit être une. Que l'Europe trouve là sa chance, justement. C'est l'Europe est elle-même victime de ce monde unipolaire. Ce monde unipolaire, ou alors un monde faussement, c'est pas forcément divisé, entre une Russie longtemps affaiblie et une Russie qui mine par justement le caractère de leur monnaie, selon les entreprises de Bretton Woods. Voici ce que on peut voir, disons, ces accords de partenariat sur un si long terme, c'est-à-dire de 30 ans, mais également une voie de respiration de l'Europe, qui elle-même sera alors beaucoup moins sensible aux pressions américaines, aux pressions militaires.
Monsieur le professeur Pierre Dortiguier, philosophe et politologue depuis Toulouse, Monsieur Xavier Dupré, économiste et analyste politique depuis Bruxelles, je vous remercie infiniment d'avoir bien voulu apporter ces éclairages à cette émission. Merci beaucoup. Voilà, c'est la fin de cette émission. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Excellente journée à toutes et à tous. Au revoir et à très bientôt.
Déroda et son dictionnaire. Ali Akbar Déroda, 1879-1956, est l'une des figures remarquables de la culture, de la littérature, ainsi que de la science iranienne au XXe siècle. Il est l'auteur du célèbre dictionnaire persan qui porte son nom, Déroda, et fait partie des œuvres culturelles importantes réalisées en langue persane. Poète et linguistique renommé, il s'impliqua également dans des activités politiques dès le commencement de la révolution constitutionnelle. Il écrivit notamment des articles qu'il signait d'Arou, ou même de son propre nom. En se rangeant du côté des constitutionnalistes, il s'opposa au monarque de son époque, Muhammad Ali Shah Qajar, et faillit être exécuté comme son collègue Mirza Jahangir Khan Sure Esrafil. Après la fin de sa formation, Déroda entra au ministère des Affaires étrangères et en 1903, il entreprit son premier voyage en Europe en tant que secrétaire d'un ambassadeur iranien. Son séjour en Europe, à Vienne plus précisément, dura plus de 2 ans, période durant laquelle il perfectionna sa connaissance des sciences modernes et de la langue française. Son retour en Iran en 1905 coïncida avec les débuts de la révolution constitutionnelle. Il s'associa à la publication du journal Sure Esrafil avec Mirza Jahangir Khan Shirazi et Rassem Khan Tabrizi, ses fondateurs. Déroda était au début le principal rédacteur du journal. Le premier numéro parut en 8 pages le 30 mai 1907. Durant ses 14 semaines d'existence, il connut plusieurs fermetures et arrestations de ses membres et seuls 32 numéros furent publiés. Déroda écrivait un éditorial au début de chaque numéro et un autre à la fin, signé de son pseudonyme Darou et qu'il nommait Charandoparand Charabia. Le style de ses articles, sans précédent dans la littérature persane, contribua à créer une nouvelle école de journalisme et de prose persane contemporaine. Ces articles créaient généralement des réactions et des protestations fortes de la part des traditionnalistes et des autorités, qui allèrent même jusqu'à l'accuser de blasphème. Peu après le coup d'état du monarque Muhammad Ali Shah contre la révolution constitutionnelle et la constitution iranienne en 1908, Déroda, suivi de quelques partisans, se réunit en signe de protestation devant l'ambassade britannique à Téhéran. Le monarque, furieux, décida de le contraindre à l'exil. Déroda vivait en exil dans une situation financière très difficile. La période de son exil en Europe fut globalement pour lui source d'angoisse et de dépression, et ce jusqu'à ce qu'en mars 1909, date à laquelle, avec ses compagnons d'exil, il quitta Yverdon pour s'installer à Istanbul. L'activité politique la plus importante de Dehroda à Istanbul fut la publication de juin à novembre 1909 d'une quinzaine de numéros d'un journal appelé Soruş, dont il était l'éditeur. Dehroda s'écarta de la vie politique après la Première Guerre mondiale et s'investit dans les domaines culturels, scientifiques et littéraires, même s'il conserva certains postes politiques, notamment en assurant pendant un certain temps la responsabilité de la présidence du bureau du ministère de la Culture, puis celle du ministère de la Justice. En 1927, il devint président de l'École des sciences politiques, devenue Haute École de droit et des sciences politiques, là où il avait jadis fait ses études, puis devint membre de l'Académie iranienne en 1935. Après la fondation de l'Université de Téhéran en 1934, il devint le doyen de la faculté du droit et des sciences politiques jusqu'en 1941. L'année de sa retraite, il se consacra ensuite pleinement à la réalisation et l'achèvement de son dictionnaire. Le dictionnaire de Dehroda est le fruit de 45 ans d'efforts continus de sa part, parfois aidé par des amis, et a été publié en 16 volumes. Il comprend la grande majorité du vocabulaire classique persan, illustré par des poèmes et des informations lexicales et littéraires. Toutefois, aucune partie n'est consacrée au lexique persan scientifique et technologique, dont la plupart ont intégré la langue persane après la publication de ce dictionnaire. Environ la moitié du livre est composée du sens des mots accompagnés d'exemples et de citations, et l'autre est composée de notifications historiques et géographiques. Ce dictionnaire présente également tous les manuscrits et les dictionnaires publiés en persan, ainsi que la correction de nombreuses erreurs de lecture et fautes d'orthographe des anciens. Les mots sont transcrits avec des voyelles, chose peu courante en persan. Un nombre important de mots turcs, mongols, hindis, arabes, français, allemands, russes et autres, intégrés au vocabulaire persan, sont également cités dans ce dictionnaire. En outre, une partie est consacrée à la grammaire persane. L'attention minutieuse qu'il avait portée aux autres dictionnaires persans avait fait constater à Dehroda que des erreurs se retrouvaient et se transmettaient d'un dictionnaire à l'autre, et que l'on pouvait y trouver des erreurs de lecture et d'orthographe. Par conséquent, il commença un minutieux travail de correction. Il entreprit tout d'abord de lire de nombreux textes persans en poésie et en prose, puis nota les mots et les combinaisons. À sa demande, ses assistants écrivaient ensuite les mots sur des petites fiches. Ces fiches, rangées par ordre alphabétique, s'élevèrent à plus de 3 millions et constituèrent la base du dictionnaire, qui contenait à l'origine environ 200 000 mots. Le dictionnaire fut publié à la fin des années 1930 avec l'aide de l'État. Un contrat fut signé à cette occasion contre Dehroda et le ministère de la Culture. De 1934 à 1935, le premier volume du dictionnaire fut préparé puis imprimé en 468 pages par l'imprimerie de la Banque nationale d'Iran en 1939. Mais en raison du début de la Seconde Guerre mondiale, qui paralysa aussi l'Iran, ainsi que de l'envergure du travail que représentait la préparation d'un tel dictionnaire, sa publication fut arrêtée. En 1946, après la fin de la guerre et à la suite de la proposition de certains des députés de l'Assemblée nationale dirigée par Mohammad Mossadegh un décret fut adopté par l'Assemblée selon lequel le ministère de la Culture était chargé de fournir le personnel et le matériel nécessaire à la reprise de la publication du dictionnaire. Une organisation fut créée à cette intention et Mohamed Moïn en fut nommé le directeur par Déroda en personne. Plus tard, dans son testament, Déroda confia à Mohamed Moïn l'ensemble de la responsabilité des fiches et de la continuation du travail de publication du dictionnaire, avec l'aide d'une équipe scientifique pour les prises de notes, la traduction, la révision et la rédaction. Le premier volume fut republié en 5000 pages en 1946. Déroda réapparut pour un court moment sur la scène politique de l'Iran au cours du mouvement de nationalisation du pétrole de Mossadegh. Il devint l'un de ses fervents collaborateurs et participa au consortium pétrolier. Avant le coup d'État du 19 août 1953, organisé par la CIA, des bruits couraient qu'en cas de victoire du mouvement et proclamation de la République, Déroda pouvait bien redevenir candidat à la présidence. En conséquence, après le coup d'État, des agents pénétrèrent dans sa maison et l'agressèrent physiquement. Peu après, le lundi du 9 mars 1959, Déroda mourut dans sa maison de la rue Iranshah à Téhéran, à l'âge de 77 ans. Son cœur fut inhumé dans le caveau familial au cimetière Ibn Babouyé, dans la ville de Rey. Après son décès, sa maison fut transformée en école portant son nom.
Thank you.